Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écho de Radio Présence. Très heureux de vous retrouver pour un numéro nouveau de Métropolez-vous. Je l'ai souvent dit dans cette émission, malgré la crise sanitaire, beaucoup de projets se sont poursuivis dans la métropole toulousaine. Certains se sont achevés pendant cette période ou d'autres, au contraire, ont été lancés. Il y en a d'emblématiques dont les chantiers sont très visibles et qui concernent souvent de grands équipements ou de nouveaux quartiers. Et puis il y en a d'autres qui sont moins identifiables à première vue. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un projet situé à Toulouse, mais qui va avoir des retombées sur toute la métropole et qui présente plusieurs aspects logistiques, environnementaux, sans parler de ceux concernant les déplacements et la circulation automobile. Ce projet, certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, c'est Toulouse Logistique Urbaine. Projet de grande envergure, multipartenarial, où sont engagés le secteur public et le secteur privé. Il revêt donc de nombreux enjeux pour notre territoire. Cette émission va nous permettre de vous en présenter toutes les dimensions. Nous partons tout de suite à la découverte du projet Toulouse Logistique Urbaine. Et pour vous le présenter, ce projet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Perrin, conseiller municipal délégué de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole chargé du vélo et des nouvelles mobilités. Bonjour monsieur le vice-président et bienvenue à vous aussi à Métropolez-vous. Alors, pour ceux de nos auditeurs qui n'ont aucune connaissance du projet Toulouse Logistique Urbaine, je vais vous demander d'abord d'en préciser les caractéristiques principales et peut-être tout simplement où est-il situé exactement.
Je crois qu'il faut rappeler que c'est un projet unique en France, c'est-à-dire qu'on est en avance à Toulouse, dans l'idée que la logistique, c'est un défi de demain. Je crois qu'il suffit de regarder les livraisons autour de soi et des pays plus en avance que nous, d'ailleurs comme l'Allemagne, pour comprendre que les livraisons de toutes sortes, le frais, le sec, mais notamment l'e-commerce, est amené à croître et en s'accroissant, il pollue nos villes, il congestionne le trafic. Et donc à un moment donné, il faut rationaliser tout ça, pour l'efficacité et bien sûr lutter contre les pollutions. Alors ce projet, c'est une dizaine d'hectares qui se situe à Fondaire, entre le canal et l'avenue des États-Unis, et qui est constitué de deux grands hangars qui font chacun près de 8000 m², un parallèle au canal, l'autre parallèle à l'avenue des États-Unis, un très beau projet d'ailleurs architectural. Et chacun de ces hangars est amené donc à faire un tri entre une logistique qui arrive de nuit, qui est livré par de gros camions, qui auront donc interdiction à rentrer ensuite dans la ville, et qui est trié jusqu'au petit matin, pour que vers 9h du matin, des camions propres puissent quitter le centre de Toulouse Logistique Urbaine et arroser le centre-ville.
Peut-être aussi une précision, c'est le statut juridique de ce projet, parce que je l'ai dit, c'est un partenariat entre public et privé, donc qui est investi et qui a investi dans ce projet.
Alors, très souvent, on essaye effectivement de trouver des partenariats public-privé parce que c'est, comme on a l'habitude de dire, gagnant-gagnant. L'investissement est fait par le privé et nous, on y met les règles du jeu.
Les règles du jeu, nous, c'est Toulouse Métropole.
Voilà, les collectivités en général peuvent mettre des règles du jeu. Les règles du jeu, on va en parler, se mettent en place à travers ce qu'on appelle la charte de logistique, qu'on va être amené d'ailleurs à réécrire. Et l'investisseur, lui, il fait un pari. C'est qu'en étant au départ, dès le départ, plus vertueux que l'autre, il aura peut-être plus de facilité à prendre des parts de marché, puisque vous savez que la logistique, c'est l'affaire de toute une série d'entreprises. Et en l'occurrence, Toulouse Logistique Urbaine a été donc donnée après concours à la Poste, qui est l'investisseur, donc avec également la société des produits frais de Rungis, de l'ensemble logistique urbaine et mine, c'est-à-dire produits frais. Mais tout ça pour dire que c'est principalement La Poste qui investit, mais qui ne sera pas le seul utilisateur. La Poste a ce qu'on appelle une délégation de service public, c'est-à-dire qu'elle a fait l'investissement, elle a en fait donc le monopole de l'utilisation de cette installation pour 22 ans, depuis 2017 jusqu'à 2039, et elle va sous-louer d'ailleurs à UPS une partie de ses installations.
Donc il y aura 19 500 m² de plateforme logistique, 28 millions d'euros investis. Donc je le répète, vous venez de l'expliquer, mais en fait la métropole n'investit pas dedans. Ce n'est pas l'argent du contribuable qui y passe, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Et puis, j'ai évoqué l'aspect environnemental. Alors, le site vise une certification environnementale et le label bâtiment à énergie positive. Et il va y avoir, par exemple, des stations de recharge électrique et une station de gaz naturel, voire peut-être d'hydrogène à terme pour les utilitaires.
Tout à fait. Il y a une récupération des eaux de pluie. Il y a la mise en place de véhicules extrêmement vertueux, puisqu'ils sont soit électriques, soit au GNV. Mais pour l'instant, c'est un positionnement vertueux de l'opérateur qui n'a pas encore été imposé par la collectivité elle-même, mais on pourrait être amené à le faire.
Alors, le contexte dans lequel ce projet a vu le jour, voit le jour, mais parce que maintenant, c'est pour l'automne prochain, je crois, vraiment, la livraison du bâtiment opérationnel. Qu'est-ce qu'il rendait nécessaire? Qu'est-ce qu'il va apporter dans le secteur logistique métropolitain?
Alors, vous le voyez tous les jours sous vos yeux, et je mentionnais l'e-commerce. Donc, vous avez toute une série de véhicules, parfois des camions. Et puis, si vous êtes curieux et que vous regardez l'intérieur du camion, souvent, vous avez une seule palette. Et puis, ce camion prend beaucoup de place. Et puis, il faut un transpalette pour aller amener ça à destination. Et on s'aperçoit qu'en fait, on pourrait faire beaucoup mieux en mutualisant la livraison. Qu'est-ce que ça veut dire, mutualiser? On en a un très bon exemple sur la place de Toulouse. C'est ce qu'a fait le magasin Medica.
Que tout le monde connaît.
Que tout le monde connaît et qui avait l'habitude d'être livré 5 fois par jour et qui a décidé, en s'associant avec une société qui dépend de la Poste qui s'appelle Urbi, qui a décidé en fait de mutualiser, donc de grouper en fait ces livraisons et de n'avoir qu'une seule livraison dans la journée. Qui plus est, cette livraison a aussi la vertu de retirer en fait les déchets et de ramener les déchets en un seul cargo. Alors bien sûr, pour la société elle-même, c'est intéressant parce qu'elle ne monopolise ses employés que dans un créneau très, très sérieux. Pour nous, effectivement, pour la ville, c'est 4 camions en moins qui vont circuler, qui vont peut-être se garer sur des pistes cyclables, qui pourraient congestionner le trafic, et puis surtout polluer. Puisque vous le savez, on en parle beaucoup avec la ZFE.
La zone à faible émission
autour de Toulouse. En fait, les effets de la pollution, c'est principalement, en général, à moitié, les camions.
Les poids lourds.
Oui. Les poids lourds. Alors, c'était le cas des bus. C'est pour ça que Tisséo est passé au bus GNV. Mais il nous reste encore donc tous les camions, ceux qui circulent sur la rocade et ceux qui vont effectivement livrer le centre-ville. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la livraison, c'est la vie. Et il ne faut pas trop réguler la livraison parce qu'une ville qui se fait livrer, que ce soit des commerçants, des artisans, des propriétaires privés, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui vit, c'est une ville qui consomme. Donc, il faut continuer en fait à vivre et avoir ces livraisons. Moi, j'adore... me promener le matin dans Toulouse quand la ville est livrée. Enfin, on sent... Le matin très tôt, on sent la vie, quoi. Et en même temps, et je pense surtout à l'e-commerce, il ne faut pas que ça devienne une nuisance de ces camions à moitié vides ou, on va dire, principalement vides, qui passent et qui repassent sans cesse comme ça dans les mêmes quartiers pour amener un nouveau paquet.
Donc, une des vertus de cette nouvelle plateforme logistique, ça va être de réduire le nombre de véhicules et de kilomètres parcourus sur le périphérique toulousain, entre autres, et à l'intérieur de la ville.
C'est ça.
Est-ce qu'on a déjà modélisé ou mesuré les gains qu'on pourrait en retirer?
Non, j'ai pas de chiffres. On n'est pas sur tous les opérateurs. Il faut comprendre d'abord une chose très importante, c'est que chaque opérateur peut s'échanger un colis. Donc, si à un moment donné, par exemple, la Poste ou UPS ont un système qui marche bien, on peut imaginer qu'ils vont être plus concurrentiels et que certains livreurs vont se dire « moi, je n'ai pas intérêt à rentrer dans Toulouse, pour moi, c'est trop compliqué, donc je vais laisser mon colis à la Poste ». Ça, c'est une possibilité. Mais ça, il faut que ce soit un choix, parce qu'ensuite, chaque livreur a un système d'étiquetage particulier et il y a autant de systèmes d'étiquetage que de livreurs et il y a beaucoup plus de livreurs, vous le savez comme moi, qu'UPS et la Poste. Donc, on est au début de quelque chose. Et on pourrait largement imaginer 2 autres unités pour vous donner un ratio. On a peut-être fait en fait 1/3 du chemin.
Ouais, on en parlera là, vers la fin de l'émission, éventuellement d'étendre ces concepts de plateforme à d'autres zones de la métropole. Une chose, on parle souvent du coût du dernier kilomètre dans les livraisons, qui serait très important, qui pourrait représenter, je crois, 20 à 50% du coût total du transport. Là aussi, ça devrait sans doute permettre de le baisser, ce coût du dernier kilomètre dans la zone métropolitaine?
Alors, quand on parle du coût, il faut savoir d'abord qui paye ce coût. Alors, c'est bien évidemment pas celui qui se fait livrer, puisque, et c'est très vrai dans l'e-commerce, mais partout ailleurs, en fait, la livraison est gratuite. Quand on paye une livraison, et c'est au livreur d'essayer de minimiser ses coûts de livraison. Il est vrai aussi que la plupart des métropoles se pacifie, s'ouvre au mode doux, et que une conséquence, c'est que c'est de plus en plus difficile de rentrer dans ces grandes agglomérations. Je pense que de ce point de vue-là, Toulouse est encore une ville assez facile, mais prenez des villes comme Montpellier, elles sont devenues impénétrables. Et impénétrable pour un véhicule léger, mais pour un véhicule de livraison également. Donc le premier prix, c'est cette difficulté, c'est le temps passé. Le deuxième prix, ça va être la motorisation. On avait fait dans le mandat précédent un choix au niveau de la charte de logistique qui était de récompenser les véhicules propres. Et donc quelqu'un qui voulait livrer au bon moment, entre 9h et midi, il fallait qu'il ait un véhicule propre. Et ça, c'est un investissement. Et c'est un investissement alors qui peut poser problème parce qu'aujourd'hui, il est facile d'avoir des véhicules inférieurs à 3,5 tonnes qui soient électriques. Si on veut monter en puissance, ça n'existe pas. On peut à ce moment-là passer en GNV. Est-ce que le GNV est vertueux ou est-ce qu'il faut attendre le bio-GNV ? Ce sont des questions éthiques et morales qui sont très importantes. Et c'est vrai que derrière, ça représente des coûts pour ceux qui n'avaient pas encore ces motorisations. Et puis, le coût, ça peut être aussi lié à l'usage. Et là, c'est là que la politique publique, à mon avis, peut faire la différence. Est-ce qu'on veut finalement livrer au pas de porte de chaque Toulousain ? La livraison étant gratuite, on peut le demander. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Ou est-ce qu'on veut, encore une fois, mutualiser les livraisons et faire quelque chose qui est assez unique et qui ne se fait qu'en France, finalement, qui est la plupart du temps de livrer dans les commerces ? Et ça coûte, pour le livreur, moins cher. Si le livreur, il sait qu'il a à livrer qu'un commerce, il n'a pas à faire le tour de tous les pas de porte. Et donc, c'est à la collectivité de mettre en place des règles du jeu qu'on est en train d'élaborer, qui sont très complexes. Et ce sont des règles du jeu, c'est ces règles du jeu qui vont mettre un prix, finalement, à la livraison. Encore une fois, ce n'est pas le prix que va payer le Toulousain. Le Toulousain lui sera livré dans tous les cas. La question politique, on va dire sociétale, c'est comment est-ce qu'on veut être livré ?
Oui. Et avec quelles conséquences ?
Et avec quelles conséquences ? Pour la tranquillité sonore.
Les nuisances sonores.
La tranquillité et la facilité qu'on a à circuler en ville. Et la pollution chimique.
Alors, on ne l'a pas évoqué, mais via cette plateforme, quel type de livraison de colis vont être acheminés ? Est-ce que ça va aller du plus petit, de quelques kilos, au très gros, de plusieurs tonnes ? Est-ce qu'on va en livrer peut-être même des plus gros qu'auparavant ?
Alors, il y a des choses qui se passent, et qui se passent très souvent la nuit, auxquelles on ne touchera pas. Il y a des livraisons qui se font de matériel sur des chantiers, dans les entreprises. Encore une fois, ce qui peut être amené à devenir vertueux, c'est les livraisons que vous observez dans la journée, on va dire à partir de 7h du matin jusqu'à peut-être 22h le soir. On n'a pas décidé, parce que la problématique est extrêmement complexe, de comment remettre en place des règles du jeu. Et donc on fera des concertations et on va essayer de commencer à construire, si vous voulez, une planification horaire. Et certaines villes l'ont fait plus tôt que nous, de façon peut-être plus rigide et plus dogmatique, qui par exemple interdisent toute livraison l'après-midi. Mais vous pouvez imaginer un mode opératoire, un usage, qui partirait finalement d'un créneau du matin où les camions quitteraient le TLU, le centre de logistique urbain, pour desservir le centre-ville en mode propre. Vous pouvez imaginer des règles du jeu qu'on n'a pas imposées, mais qui me semblent nécessaires, qui seraient dans le régime pendulaire, vous savez, le régime d'échange du matin, d'interdire les livraisons en double fil entre 7h et 9h. On a énormément d'incidents aujourd'hui en vélo liés au fait que beaucoup de livraisons se font en double fil. Donc là, j'ai commencé à poser la question. Il va falloir qu'on la pose à tous les livreurs
et à tous les commerçants.
Oui. C'est est-ce que vous êtes capable j'étais encore avec le directeur de l'hôpital Rive Gauche hier ou avant-hier en lui posant la question. Est-ce que vous êtes capable de vous faire livrer sans double fil le matin entre 7h et 9h parce que sur l'avenue, il y a des problématiques sur la piste cyclable. Donc, c'est toutes ces questions qu'il va falloir se poser. Et puis, dans l'après-midi, on passera à des modes de livraison plus doux. Et puis, dans la soirée, probablement, on passera à des vélos cargo, puisque à partir de 16h, il n'y a pas vraiment de raison que la ville soit livrée. Je posais notamment la question à la directrice de la FNAC, Wilson. Quel est le dernier créneau qui vous semble opportun pour être livré, elle me disait, c'est 14 heures. Donc, il y a ce travail très méticuleux qu'on doit faire, qui est d'aller voir tous les interlocuteurs, et d'ailleurs, si certains nous écoutent aujourd'hui, de venir vers moi pour avoir cette discussion sur, finalement, quel est le bon créneau horaire de livraison dans une journée pour, finalement, progressivement pacifier la ville vers la fin de soirée pour que les Toulousains, à partir de la sortie du travail, puissent profiter d'une ville sans entrave.
Et c'est le moment aussi, il y a beaucoup de cyclistes qui se mettent à circuler. Hein.
Et justement, c'est le deuxième régime pendulaire à partir de 16h. Donc là, c'est le retour à la maison. Et on devrait imaginer que dans ce deuxième régime pendulaire, il n'y ait plus de livraison en cours, avec probablement des livraisons de gros paquets qui reprennent en fin de journée, entre 20h et 22h, pour par exemple se faire livrer sa machine à laver ou des choses comme ça. Voilà, tout est à réinventer.
Puisqu'on en parle, puisque vous êtes aussi vice-présidente de Toulouse Métropole en charge du vélo et des nouvelles mobilités, est-ce que ce projet de Toulouse Logistique Urbaine s'inscrit aussi, en tout cas est pris en compte, dans le plan mobilité de Toulouse Métropole ?
Oui, parce que, encore une fois, c'est une conséquence immédiate. Je pense notamment aux livraisons en double fil. Enfin, ce sont des choses qui pénalisent énormément le trafic. Tous les Toulousains savent qu'il y a des places qui sont bloquées dès le matin et ce sont souvent sur des voies bus. Je peux prendre l'exemple de la rue du Languedoc, on peut prendre la place du Puy, on peut prendre des tas d'exemples qui nous montrent qu'effectivement ça pénalise le transport en commun en tout premier lieu. Et le transport en commun, moi qui suis vice-président vélo, je pense que la priorité doit être donnée au transport en commun. C'est-à-dire que le premier transport de masse, c'est le transport en commun, c'est le bus. Donc on voit tout de suite que si on veut aller vers une facilité pour tous les Toulousains à prendre le transport en commun, et donc notamment les linéo, tous les bus en voie propre, il faut que ces bus puissent circuler sans livraison dans les régimes pendulaires. Donc la livraison logistique et la circulation, c'est intimement lié.
Alors j'ai vu que la Poste va utiliser des fourgonnettes et des quadricycles électriques. Il y aura donc, vous l'avez cité, des livreurs à vélo cargo. C'est une première, ça, en France, ce qui se passe à Toulouse, ce qui va se passer à Toulouse ?
Non, il y a des tas de...
D'exemples dans d'autres métropoles.
Oui, qui investissent dans des vélos cargo, certains dans des vélos cargo hydrogène, puisque qu'est-ce qu'un vélo cargo ? C'est un vélo avec, vous les avez vus dans Toulouse, soit une grande boîte à l'avant, soit... un petit deux roues à l'arrière qui est relié au vélo, et parfois les deux d'ailleurs, avec une difficulté, c'est que l'électrique parfois ne suffit pas en autonomie, et donc certaines villes ont fait l'investissement de cargo vélo hydrogène. Donc c'est en train de se mettre en place. D'ailleurs, on a déjà des sociétés sur Toulouse qui s'y sont mis, vous les voyez passer. L'intérêt du vélo cargo, c'est qu'il va directement chez le commerçant. Donc vous n'avez pas ce système de palette, de pousse-palette, de transpalette, et puis il n'a pas à se garer, c'est-à-dire qu'il va directement au pas de porte du commerçant. Alors vous avez des villes, par exemple, comme Strasbourg, qui sont en train de faire une expérimentation qui mélange, par exemple, le fluvial et le vélo cargo. Vous avez une barge qui arrive au centre-ville de Strasbourg. Paris est en train de regarder la même chose avec une autre compagnie. Ce sont deux compagnies qui nous ont contactés, qu'on pourrait être amené à voir opérer sur Toulouse. Et depuis la barge, en fait, partent de petits vélos cargo.
Oui, parce qu'en plus, Toulouse Logistique Urbaine, vous l'avez dit, c'est à fond d'air, le canal est tout proche.
Alors, voilà.
Qu'est-ce qu'il est envisagé d'utiliser ce point d'accès ?
Il faut remercier les anciens qui ont bien pensé quand ils ont pensé fond d'air. Pourquoi ils ont bien pensé ? D'abord, parce que la plupart du trafic nous arrive de Paris, donc nous arrive par le nord, trafic logistique. Et ensuite, effectivement, on est à la fois sur un axe pénétrant dans Toulouse, sur le canal, et pas loin de la voie ferrée. Donc c'est un site qui va pouvoir s'adapter, et je travaille avec VNF, les voies navigables,
de France,
pour justement voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait rajouter une composante de desserte fluviale à la zone de fond d'air. Alors, avec un petit défaut, c'est que le bon port, et finalement c'est un port historique, c'est marrant comme l'histoire nous rattrape, pour la logistique urbaine, ce serait le port Saint-Sauveur.
Et oui.
Il est extrêmement bien placé. Et malheureusement, entre Fond d'Air et Port-Saint-Sauveur, il y a trois écluses. Il y a près d'une heure, en fait, de transit. Et une heure pour une barge.
Ça commence à être long. Ouais.
Non, finalement, ce n'est pas grand-chose. Oui, je pense qu'une heure, c'est pas grand-chose.
Vous pensez que ça vaut la peine.
Ça vaut la peine.
De l'envisager.
Ouais.
Il y a autre chose. Je crois savoir que le site de Toulouse Logistique Urbaine va être desservi par une station de la future troisième ligne de métro. Est-ce qu'il serait envisageable aussi d'utiliser le métro pour du fret ? Peut-être seulement la nuit, mais pourquoi pas ?
Ça a été envisagé, je pense, un élu qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Francis Grasse. Je ne sais pas si aujourd'hui on a mis des réserves, et je pense que le projet est peut-être trop avancé pour en mettre. Ce qui est regardé aujourd'hui, ce sont des systèmes plutôt qui utiliseraient le tramway, puisque le tram, lui, par essence, il est au niveau de la ville, et donc il est directement utilisable, que ce soit en rajoutant des unités dans la journée ou alors en le faisant tourner la nuit.
Ça, ce serait quelque chose qui pourrait éventuellement donc être intégré.
Oui, c'est regardé.
En tout cas, il y a des réflexions qui sont en
cours. Regardé.
Si on en vient au site et aux surfaces disponibles, qui sont immenses, si on pense qu'il y a donc 10 hectares de surface sur l'ensemble du site, et puis 20 000 mètres carrés disponibles, est-ce qu'elles sont déjà commercialisées, louées ? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui sont positionnées ?
Ah oui, 80% du site est
voilà,
déjà...
Voilà, donc ça a vraiment tout de suite, l'intérêt était bien compris.
Ah
par,
oui. Et alors moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir en disant « mais nous aussi, on voudrait faire pareil ». Trouvez-nous en fait un site. Et donc on est en train de faire une recherche qu'on appelle une recherche de foncier, c'est-à-dire sur des terrains qui appartiennent à la métropole, regarder si on peut, et on regarde notamment les axes, on va dire, symétriques, que seraient l'axe sud-est et l'axe sud-ouest. Alors on peut imaginer toujours, pareil, si on allait vers Ramonville, trouver quelque chose qui serait également près du canal, pour avoir aussi une desserte. Parce que j'ai oublié de le dire, mais la vertu du fluvial, c'est que ça peut évacuer des choses volumineuses et lourdes, et notamment les déchets. Donc on pourrait imaginer également évacuer les déchets. J'ai lancé des réflexions notamment sur l'évacuation des biodéchets. Parce que les biodéchets, on sera, par la réglementation, donc obligé de les évacuer vers des usines de méthanisation à l'horizon 2024. Il va falloir mettre en place, est-ce qu'on veut des camions, est-ce qu'on veut des péniches, comment on veut s'y prendre.
Et donc ça, ce serait une possibilité permettrait la proximité du site avec le canal.
Donc d'un côté vers Ramonville et de l'autre côté vers Portée-sur-Garonne, bien évidemment.
Alors, vous venez un petit peu d'en parler, mais donc la construction donc, de cette zone logistique, Toulouse Logistique Urbaine, est-ce qu'elle en appelle d'autres dans un avenir proche? Est-ce que c'est la première pierre d'un projet plus vaste? Est-ce que là encore, il y a des réflexions qui sont en train d'être menées?
Oui, parce que les gens, peut-être au départ, pensaient qu'un seul site suffirait. On voit qu'il en faut plusieurs. Mais ce premier site, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du transport logistique un CDU, un centre de distribution urbain. Et c'est un centre duquel sont défaits donc les colis des gros camions qui arrivent la nuit et partent des camions moyens. Mais on n'a pas encore fait tout le travail. Si vous voulez une ville pacifiée en fin de journée, si vous voulez des vélos cargo, il faudra que ces vélos à cargo aillent se nourrir dans des unités plus proches du centre-ville, qu'on appelle des ELP, des unités locales, et qui ont vertu à stocker les choses de façon intermédiaire. La Poste l'a très bien compris, qui s'est mis sur le marché de la logistique, parce que La Poste, justement, a elle-même, en fait, chacun de ses relais postaux, qui est un petit ELP.
Petite ELP en soi.
Voilà, entrepôt de proximité, local de proximité, logistique de proximité. Et j'ai aussi là beaucoup de livreurs qui sont en recherche de fonciers et qui me disent « Nous, on aimerait en fait livrer Alsace-Lorraine de façon pacifiée avec des vélos cargo. » Je dis « Très bien ». Mais ils me disent, mais pour ce faire, on aurait besoin d'un entrepôt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un entrepôt local? Idéalement, c'est quelque chose qui est dans la ville, qui a une entrée pour les camions, c'est-à-dire une entrée un peu indépendante, parce qu'il faut bien que le camion, à un moment donné. Alors, on peut imaginer d'anciens parkings qui soient transformés, par exemple, en logistique. Ça a été fait dans certaines villes, où un niveau entier de parking a été transformé, y compris pour les produits frais. On peut tout imaginer. Et donc, on fait cette recherche actuellement, là aussi, de foncier. Pour ces petites unités de logistique partout dans la ville.
Des sites comme Toulouse Logistique Urbaine, il en faudrait combien en plus?
Alors des gros sites, c'est-à-dire ceux qui prennent la logistique au moment où elle rentre en ville. Bon, j'ai pas d'idée, mais j'imagine qu'il en faudrait 2 ou 3.
Ça, c'est lié à l'augmentation de la population ou est-ce que c'est lié aussi aux contraintes qui vont se faire de plus en plus strictes sur la pollution?
C'est lié à, on va dire, 3 choses. Augmentation de la population, vous en avez parlé, mais surtout augmentation de l'e-commerce. On n'est qu'au début d'un nouveau mode opératoire. Et les vraies questions de société, c'est d'ailleurs, est-ce qu'on veut être livré en pied d'immeuble? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être chez soi à travailler en télétravail?
Est-ce qu'on nous apporte
pour
tout?
Pour finalement qu'on vous amène à manger?
On sort plus.
Et voilà, ça c'est des vraies questions. Ce sont des questions
sociétales.
Ce sont des questions sociétales. Et ça pose d'ailleurs une question, c'est où est-ce que vous mettez des consignes? Il faut comprendre qu'avec la logistique, que ce soit le sec ou le frais, vous aurez des consignes. Vous les voyez aujourd'hui naître un peu partout, dans les stations essence, chez les commerces. Ce sont en fait de grandes boîtes aux lettres, un peu plus sécurisées pour les produits, notamment de l'e-commerce. Et la question, c'est où est-ce que vous mettez ces consignes? Est-ce que vous voulez mettre des consignes en pied d'immeuble? Est-ce que vous voulez les mettre, on y pense par exemple avec Tisséo, en bout de ligne de métro? Ce serait assez logique. En fait, commandez sur Internet, vous rentrez chez vous, portez rien, vous arrivez à Bordeaux-Rouge avant de reprendre votre voiture, prenez votre colis et vous partez avec.
Voilà. Dans un dépôt.
Dans un dépôt, voilà.
Et c'est là qu'on se rend compte que ces affaires de logistique, en fait, c'est des choix de société qui sont derrière, vraiment.
Tout à fait. Non, ce sont des choix politiques. Et avec le président et maire Jean-Luc Moudenc, on veut, nous, une ville qui vit, donc avec du commerce, avec des échanges. Et en même temps, on veut favoriser le commerce local. C'est-à-dire qu'il faut... moi, je suis, par exemple, pour le fait de mettre ces consignes dans des petits cœurs de ville. On est en train d'accentuer ce mouvement vers des cœurs de ville. Et il ne faut pas que la logistique soit quelque chose qui laisse les gens chez eux. À mon sens, ce serait dramatique.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de qualité de vie, il y a des enjeux d'emploi.
Et alors, d'ailleurs, pour parler des commerçants toulousains, on a un autre défi qui est de livrer, en fait, les produits vendus par les commerçants toulousains. Et moi, c'est ce que je voudrais d'ailleurs traiter en priorité, parce que c'est un sujet qui me paraît passionnant. La ville se pacifie, c'est qu'on va traiter bientôt la rue de Metz, donc les transports en commun seront plus ou moins rejetés pour ce qui est des bus sur les boulevards. Donc les gens vont se retrouver à marcher avec plus ou moins de difficultés. Bon, heureusement, il y aura des navettes électriques pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Et ces gens-là ne vont pas porter leur paquet. Donc à un moment donné, il faut bien, pour que le commerce toulousain continue à croître, qu'il y ait un service probablement vélo-cargo. Et là aussi, là, je parlais avec la directrice de la FNAC qui est en train de chercher ce genre de service pour finalement livrer chez eux les gens qui sont venus consommer en ville. Et là, il me semble qu'on est extrêmement vertueux.
Mais quand je disais au début de cette émission que ce sujet et ce projet avaient beaucoup de dimensions et beaucoup d'enjeux, mais il en a encore plus que je le croyais, on est arrivé au terme de cette émission passionnante. Merci beaucoup Philippe Perrin d'en avoir été l'invité et de nous avoir présenté ce grand projet Toulouse Logistique Urbaine en cours de construction et qui revêt bien sûr une importance cruciale pour l'acheminement des colis de toute taille dans la métropole, mais aussi pour les déplacements et la circulation sur notre territoire. Faire baisser la pollution, voilà des sujets épineux, comme chacun sait, complexes. Vous aurez sans doute l'occasion de revenir à Radio Présence lorsque le chantier sera achevé et que le site sera opérationnel pour en reparler et nous rappeler sa fonction et ses objectifs. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.